19h17 sur France Inter, c'est l'heure du téléphone sonne avec vous Arnaud Bousquet.
Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Vous vous souvenez de la chanson de Beaudommage dans les années 70,
la complainte
du phoque en Alaska. Oui. Il avait le blues, le phoque, parce que sa blonde était partie tourner des ballons dans un cirque aux États-Unis. Bah, c'est le thème de l'émission de ce soir. Le blues réel ou supposé des animaux qui travaillent à faire rire et à émouvoir les enfants. À demain, Christophe.
À demain.
Bonsoir, on a tous un tendre souvenir d'éléphant sur ses pattes arrière dans un cirque, souvenir d'un singe rigolo accroché à la grille du zoo, et on a forcément, selon notre âge, un saturnin, une belle ou un flipper dans le cœur.
Hé, hey, flipper, écoute, veux-tu être la mascotte des gardes-côtes ?
Et qu'est-ce qu'il a répondu ?
Il a dit qu'il était d'accord, à condition qu'il n'ait plus jamais à remonter dans l'hélicoptère.
Ouais, n'empêche qu'on n'a pas la conscience tout à fait tranquille avec ça. Un jour ou l'autre, on se dit qu'en vrai, le dauphin, personne lui a posé la question de savoir s'il était heureux et s'il avait envie de monter dans l'hélicoptère en question. Alors interdire l'utilisation d'animaux dans les cirques, les films, les parcs, ou du moins la réglementer. Utilisation, travail, exploitation, maltraitance, nos invités ne seront certainement pas d'accord sur le mot à employer. Nous recevons ce soir Sandrine et André-Joseph Bouglione. Bonsoir.
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 Vous avez l'un et l'autre été dresseurs au cirque Bouglione et vous avez rompu avec ce type de cirque et avec le dressage. Vous nous direz pourquoi. En direct de France Bleu La Rochelle, nous sommes avec Jocelyne Porcher. Bonsoir.
Bonsoir.
Ancienne éleveuse, aujourd'hui sociologue et chargée de recherche à l'INRA. Et puis en direct de son domaine du Loiret, Muriel Beck. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes dresseuse animalière pour le cinéma, la société Animal Contact, avec 35 espèces en permanence sur le site, déjà 150 tournages à votre actif. Et là, vous êtes en plein entraînement avec des oies. Vous nous direz tout à l'heure si elles ont bien travaillé cet après-midi. Alors, quelle législation, quelle évolution et que sait-on vraiment de ce que vivent, de ce que ressentent les animaux qui nous divertissent? On attend vos questions. On attend vos remarques, vos témoignages, pourquoi pas au standard du téléphone sonne 01 45 24 7000. Soyez les bienvenus.
Arnaud Bousquet, le téléphone sonne.
Sandrine et André-Joseph Bouglione, quel est l'événement, le déclic qui vous a fait changer de chemin, mais alors à 180 degrés? Parce que vous étiez dompteur au sein du cirque familial pendant 20 ans. Non seulement vous avez arrêté, mais en plus vous êtes maintenant des militants de la protection animale. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il s'est passé beaucoup de choses, en fait, il n'y a pas une seule raison, ouais. Je te laisse parler.
Sandrine Bouglione.
Oui, oui, donc, en réalité, vous savez, le poids de la tradition, on le subit un peu de notre famille. Moi, j'avais un père, un grand-père dompteur. Mon mari, c'était la même chose. C'est le 8e dresseur de sa famille. Et donc, c'est normal. Avoir des animaux qui sont menacés d'extinction sur la planète, c'est normal. C'est ce que tout le monde a toujours fait. Et il n'y a pas vraiment de déclic. C'est la non-volonté de vouloir continuer cette tradition familiale, vouloir divertir des enfants avec des engagements personnels. Vous savez, nous, on a toujours été dans la cause animale. On était contre la corrida, contre la chasse, contre énormément de choses, mais on adorait notre métier. On n'était pas, à un moment donné, on n'était plus en adéquation avec ce qu'on ressentait, ce qu'on faisait, et on a décidé de... voilà, ça a pris du temps, ça nous a pris une transition de 4 ans, en réalité.
On va pas faire l'émission sur la famille Bouglione, mais on imagine la nature de vos relations désormais avec votre famille qui continue à proposer des numéros de cirque avec des animaux. Vous estimez donc que les animaux chez les Bouglione, comme dans tous les autres cirques, souffrent de leurs conditions même d'animaux de cirque?
Alors, c'est une
André-Joseph
question...
Bouglione.
Voilà, c'est une question compliquée parce qu'en réalité, on ne peut pas dire ça. Mettre tout le monde dans le même panier. Il y a forcément des cirques où les animaux sont maltraités. Oui, évidemment. Mais dire que c'est le cas partout, non. Dans ma famille, c'est pas le cas. Maintenant, ce sont des animaux qui, même bien traités, sont condamnés à rester dans leur cage à vie. On n'a pas de solution. Et c'est là, moi, c'est vraiment... moi, pour moi personnellement et Sandrine, si on peut dire le déclic, on peut dire il est un peu là quand on s'est rendu compte que finalement on ne pouvait pas les traiter mieux que ce qu'on faisait, mais en fait ils étaient quand même en captivité et à vie.
Chez les Bouglionnes, on présente toujours un numéro avec des éléphants, par exemple, et c'est présenté en ces termes. L'intelligence d'un apprentissage et d'un travail naturel permet d'avoir ces moments d'émotion que seul procure l'harmonie entre l'homme et l'animal. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans, Muriel Beck, vous qui travaillez avec des animaux?
Ben oui, tout à fait, tout à fait. Alors, pour rebondir sur cette toute première présentation, dire que les animaux en captivité sont des animaux condamnés, je n'irai pas jusque-là. Un animal qui naît en captivité, il ne connaît rien d'autre que la captivité. Lors d'une émission de télévision, je vais vous donner un exemple très simple. Est-ce que l'homme est fait pour vivre au 13e étage d'un HLM, une famille complète sur 40 carrés? J'en doute fort. L'homme n'a pas été, je pense, créé pour cela. Donc les animaux sauvages, pour ne parler que d'eux, en captivité, est-ce qu'on doit toujours les considérer comme des animaux sauvages? Pour ma part, les animaux sauvages, tels que tous les animaux de la faune européenne, les sangliers, les cerfs, les biches, proviennent tous de sauvetage. Donc, ce sont des animaux qui étaient condamnés, qui sont arrivés effectivement chez moi, et qui, maintenant, œuvrent pour le grand écran et le petit également. Sont-ils heureux, malheureux? Moi, vous savez, la question est très simple, la réponse est très simple. J'invite quiconque à venir les rencontrer, et j'invite effectivement tout le monde déjà à les regarder à l'image, pour les gens qui sont un petit peu aguerris. Regardez l'expression de mes animaux lorsqu'ils sont à l'image. Je ne pense pas qu'ils soient malheureux. Après, je travaille selon une méthode assez particulière qui est basée sur le renforcement positif. Je ne les contrains absolument pas à réaliser les actions demandées. Je les invite et je le fais en toute harmonie avec eux. Et ils y prennent du plaisir, je peux le prouver tous les jours.
Une réaction peut-être de Sandrine et André-Joseph Bouglione sur le plaisir que peuvent prendre ces animaux qui sont des animaux nés en captivité. Faut dire aussi que depuis, je crois, un demi-siècle, on ne prélève plus d'animaux dans la nature pour les mettre dans un cirque.
Sauf
les éléphants africains en particulier. Ouais. Oui. Alors, je voudrais surtout rebondir sur une chose, c'est que j'entends souvent cet argument où on dit que est-ce que l'homme est fait pour vivre dans un immeuble au 13e étage, dans une cage à lapins finalement, dans un HLM. Non, mais en fait, en même temps, on peut pas comparer. Parce que finalement, les tigres du Bengale, ils sont combien à l'état sauvage réellement à vivre? Nous, on est 7 milliards sur la planète. On peut faire des petits efforts pour se serrer. Hein. Bon, c'est normal. Et puis, quelque part, on est responsable. Les tigres ne le sont pas. Voilà, il est là le problème. Et quand on met des animaux comme un tigre, moi, je connais les tigres, j'en ai eu toute ma vie. Eh bien, à un moment donné, je ne pouvais plus supporter de les voir en cage. C'est mon problème certainement, et c'est pour ça que j'ai décidé également d'arrêter. On peut pas comparer des animaux qui sont en voie d'extinction à l'état sauvage avec les hommes.
Jocelyne Porcher, en duplex depuis France Bleu, La Rochelle, vous êtes sociologue et chargée de recherche à l'INRA. Dans vos recherches, vous avez senti, vous avez déjà assisté à ces moments d'émotion que seul procure l'harmonie entre l'homme et l'animal. C'est une chose possible?
Ah oui, c'est une chose possible, et c'est ce qui fait la richesse et la beauté de nos liens aux animaux. C'est justement tout ce qui nous apporte du point de vue des émotions, des affects et de l'intelligence. Parce que là, je vais rebondir sur sur le mot qu'a employé Muriel Beck de œuvre, que les animaux œuvrent. Bah précisément, c'est ça. C'est ça le point, enfin, qui me semble crucial, c'est le fait que dans nos relations, les animaux travail. C'est-à-dire que là, enfin, à mon avis, c'est le cas de tous les animaux domestiques. Mais là, puisqu'on est, on parle des animaux de spectacle, qui travaillent dans le spectacle, s'il y a un domaine vraiment où on peut aller chercher la participation, la collaboration des animaux au travail, c'est bien le spectacle. Enfin, il est réalisé parce qu'il y a des individus au travail, il y a des individus humains, mais il y a aussi des individus animaux. Ils œuvrent justement pour la réussite du spectacle, pour la... atteindre les objectifs qui leur ont été fixés. Alors, je pense que c'est ça, pour moi, toutes les questions qui tournent autour de la présence ou pas des animaux. Alors, bon, je parlerai pas spécialement des animaux en voie de disparition ou en extinction, etc., mais les animaux dans le spectacle, que ce soit des chevaux, des tigres ou des oiseaux, ils ont une fonction, voilà, ils sont là pour faire un spectacle. Et nous, ce qu'on a montré dans le cadre des recherches de mon équipe, c'est qu'ils font ce spectacle et qu'ils le savent, quoi. Ils s'investissent dans le spectacle. Alors, évidemment, après, il y a la question des conditions de vie des animaux, des conditions de vie au travail, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller chercher le travail des animaux, c'est-à-dire, voilà, à partir de l'hypothèse que les humains et les animaux travaillent à produire un spectacle. Donc, ils ont un travail, en fait, ils sont pas, là, vous avez employé le mot de divertissement. C'est vrai que, enfin, je suis pas sûr que ça, on puisse réduire d'ailleurs la présence d'un humain dans un spectacle avec animaux à du divertissement. Il y a tout un côté cognitif, affectif, qui va bien au-delà du divertissement et qui construit nos vies. Et donc, il y a cette question du travail qui, pour moi, est centrale. Et du coup, c'est pas l'espèce qui compte, c'est pas les tigres, c'est ce tigre-là, sa trajectoire de vie et qu'est-ce qu'il fait avec les humains. Alors après, dans quelles conditions il vit, etc.
Sur cette notion de travail, une question de Camille qui nous appelle de la région Bourgogne. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Très bien. Alors moi, la question que je voulais poser, c'était par rapport à la limite entre le travail avec les animaux et la maltraitance animale. Est-ce que la limite entre un moment où dans un parc animalier on va faire travailler un animal et la maltraitance est assez élevée pour qu'on ait vraiment un respect envers les animaux ?
Question très précise et peut-être que Muriel Beck va vous répondre. Comment fait-on la différence ? Où est la frontière ? À quel moment on s'arrête ?
Alors, écoutez, c'est une question intéressante, effectivement. Comment définir la maltraitance ? Quel est le regard et quelle est comment définir la maltraitance ? C'est une question que tout le monde se pose. La maltraitance, c'est à partir du moment où on contraint l'animal à réaliser une action et qu'il n'est plus partenaire. Donc ça, c'est une chose qui n'existe pas en ce qui me concerne, donc j'ai un peu de mal à le concevoir, j'en conviens. Après, on peut... Vous savez, les animaux pour le cinéma, il s'agit de leur faire curieusement réaliser des actions naturelles, commandées, qui sont donc, et je parle principalement des animaux sauvages, hein. Un animal sauvage, il est basiquement absolument pas fait pour servir l'homme, contrairement à l'animal domestique. Qui a comme repère l'humain, puisque ce sont des espèces qui ont été créées dans cet objectif et sélectionnées depuis des millénaires. L'animal sauvage, de base, il a absolument pas demandé à vivre au contact de l'être humain, et encore moins de le servir. Donc ma discipline est très intéressante et c'est ce qui me passionne, j'en fais des animaux acteurs. Donc je les invite, je leur donne juste envie d'avoir envie. Et contrairement à vous parliez tout à l'heure des numéros de spectacle dans les zoos, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet, contrairement à des parcs de vision simples, le développement des spectacles animaliers dans le cadre des zoos permet deux choses. D'une part, éduquer les gens, leur apprendre, parce qu'on peut bien parler de préservation et de conservation et de protection, si on n'a pas la connaissance et si on ne se rend pas compte à un moment donné de ce qu'est l'espèce et si on visualise pas l'animal, l'individu, et si on connaît pas son mode de fonctionnement, on n'est pas du tout sensibilisé quant à sa protection. Donc éduquer le grand public et les enfants en particulier à la protection animale, c'est déjà leur présenter les animaux. Ensuite, d'un point de vue purement technique, ces animaux qui travaillent, entre guillemets, qui font des spectacles dans les parcs zoologiques, ce sont des animaux qui sont occupés. Or, vous prenez un parc zoologique qui ne réalise pas de spectacle, vous allez avoir un problème fondamental à gérer au quotidien, c'est les problèmes de TOC. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui tournent en rond, qui deviennent à moitié un peu dingos, qui ont des horloges biologiques dans la tête et attendent le repas. Tous ces animaux qui travaillent, entre guillemets...
Alors, entre guillemets, vont mieux que s'ils ne travaillaient pas et ils ont moins de TOC. On a un souci de ligne et de connexion, de communication avec Muriel Beck. On va essayer de réparer tout ça. Sandrine et André-Joseph Bouglione, vous avez été, je le rappelle, dompteurs d'animaux de cirque pendant plusieurs décennies, je crois, 20 ans pour vous.
Moi, personnellement, toute ma vie, Sandrine également.
Est-ce que vous arrivez à voir si l'animal adhère spontanément, naturellement à ce que vous lui demandez, au travail que vous lui proposez?
Alors vous savez,
est-ce que ça se sent ?
Alors bien sûr, parce que vous savez, toutes ces années étant dompteur, nous n'avions pas l'impression d'être maltraitants du tout envers nos animaux. On était toujours à l'écoute, on était vraiment en fusion avec eux. Maintenant, nous pensons que déjà, c'est vraiment propre au cirque. On est un divertissement familial. On est là pour divertir des enfants et des générations futures. Ces générations futures ne verront pas d'animaux sauvages en milieu naturel et nous, on est des tiens. Pour juste les présenter dans un spectacle. Donc même si, bien sûr, ça nous manque, c'est pour ça aussi qu'on est devenu quelque part militant de la cause animale, qu'on veut s'investir, on est en train de... Voilà, le mois prochain, on va avoir des ours qui ont été réintroduits dans un sanctuaire, ils ont 22 ans d'existence, des ours de cirque ont été réintroduits en milieu naturel. Donc on s'intéresse à voilà comment réintroduire l'animal, etc. On n'avait pas l'impression d'être maltraitant, mais on ne peut plus continuer à montrer à des enfants quelque chose qui n'est plus en phase avec la société actuelle. On est dans une société de déforestation, de destruction et juste de faire le clown et de demander bien sûr un exercice naturel à un animal. On lui demande, il va sauter naturellement, il va se mettre debout naturellement. Mais là, on lui demande ponctuellement et là, ça ne devient plus naturel.
Il y a aussi, si je peux me permettre, un petit détail. La dame disait à un moment donné que... il y avait comme une mission d'éducation vers le public avec, en présentant des animaux. Bon, j'en ai présenté toute ma vie. C'est le travail de ma famille depuis plusieurs générations. Et vous savez qu'en fait, j'ai pratiquement 45 ans aujourd'hui. Je me demande encore ce que ça peut apprendre aux gens de voir des animaux dans une piste de cirque ou dans un cadre de spectacle. Ça n'apprend rien à personne. Ça, c'est une aberration de dire ça. C'est faux.
Jocelyne Porcher, vous avez par exemple mené une étude, je crois, il y a quelques années, qui vous a permis d'affirmer que non, l'éléphante du cirque Grus n'était pas malheureuse et que même il y avait une relation fusionnelle entre l'éléphante et Firmin, son éleveur. Racontez-nous ça.
Ah ben ce n'est pas moi qui ai fait l'étude.
Sous votre direction.
C'était sous ma direction et c'est dans le cadre d'un programme ANR à propos du travail animal. Justement, notre objectif, c'était d'interroger l'investissement subjectif des animaux dans le travail et de montrer qu'ils travaillaient. Alors, je veux juste dire que quand je parle de travail, je ne parle pas de contraintes, de revenus, etc. Le travail, on a un cadre théorique qui est la psychodynamique du travail qui propose de penser que le travailler, c'est investir son intelligence et ses affects et toute sa personne dans une activité productive. Et là, on a montré que en fait, tout ce qui concerne les concepts appliqués aux humains sur le travail, on pouvait les faire travailler justement avec les animaux. Et donc, on a entre autres effectivement rencontré Firmin Grus et l'étudiante a eu des entretiens avec lui, a observé ses relations avec Cinda, etc. Et ce qu'on a remarqué, effectivement, ce qu'elle a remarqué, c'est la force de leur relation et le fait que Cinda, elle était alors par exemple l'étudiante a remarqué qu'entre ce qui se faisait au moment des entraînements et ce que la Cinda faisait au moment du spectacle pouvait être très différent. Puisqu'au moment du spectacle, évidemment, elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très fort et qui ressemblait pour l'étudiante. Ce qui l'a frappé, c'est que ça ressemblait beaucoup à une relation entre un maître et son chien, par exemple. Quelque chose de très fort qui construit l'identité et qui fait que, alors ça tient justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on, je parle pas des éléphants, c'est cet éléphant dans son histoire avec et voilà, avec dans sa relation avec un humain, une relation très forte, fusionnelle effectivement. Et donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, et le travail qui est fait autour et qui fait avec, qui construit la relation. Et je pense pas, je sais pas ce qu'il en est de Cinda maintenant, puisque j'ai entendu dire que Firmin ne l'avait plus, mais en tout cas j'ai du mal à penser qu'elle serait plus heureuse dans un sanctuaire, comme je le mets entre guillemets parce que je trouve ce terme un peu étrange, que au travail avec Firmin. Ça, je crois qu'il faut pas s'illusionner sur le fait, et je crois que c'est ce que nos travaux montrent, que les animaux aiment s'investir dans le travail. Ils aiment faire des choses, ils aiment réussir des choses, que ce soit des chiens d'assistance, des chiens militaires, des éléphants, des chevaux, des chiens de berger, tout simplement. Ils aiment s'engager dans les activités, et ils sont comme nous, en fait. Ce qu'ils aiment pas, c'est s'ennuyer, voilà, c'est tout. Et donc, effectivement, faire travailler les animaux dans les zoos, leur proposer des relations de travail avec les humains, inventer des choses, il faut réinventer nos relations. Ça, moi, je suis parfaitement d'accord, mais je propose de les réinventer, non pas en nous séparant des animaux, mais en reconstruisant nos liens avec eux, en prenant en compte qu'ils sont avec nous dans des rapports de travail et qu'on est ensemble, on vit ensemble pour produire et changer la vie ensemble. Et si on ne travaille pas ensemble,
Je vous laisse conclure, on ira rejoindre un auditeur qui patiente depuis déjà fort longtemps au standard.
Je finis juste ma phrase pour dire que je pense qu'il faut s'en rendre compte que si on ne travaille pas avec les animaux, on ne vit plus ensemble. Et ça a été le cas des ânes, par exemple, qui ont été sortis du travail à cause de la mécanisation. Si on ne leur avait pas donné un nouveau métier, il n'y aurait plus d'ânes. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter.
France Inter, Arnaud Bousquet, le téléphone sonne.
Lisa nous attend dans le Languedoc. Bonsoir Lisa.
Oui, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie là de prendre mon appel. Je salue monsieur et madame Bouglione que j'ai rencontré à Bordeaux au début du mois de juillet.
Bonjour.
Je vous téléphone au sujet de la corrida. Voilà, je suis du Sud et je m'interroge toujours sur cette aberration française qui est que la corrida est autorisée dans le sud de la France, certains départements du sud de la France, une dizaine, grâce à un alinéa l'alinéa 7 sur la loi Gramont, et elle est interdite dans le reste de la France car elle est considérée comme un spectacle comme une cruauté envers les animaux. Dans le sud, elle est autorisée au prétexte de tradition. Une tradition qui d'ailleurs n'est pas forcément très ancienne puisque elle date du mariage de Ginny de Montiro avec Napoléon III. Et elle a toujours été contestée. La linéa 7 n'a été ajoutée à la loi Gramont qu'en 1951. Et depuis, les gens du Sud qui ne sont pas plus cruels que les autres, hein, au contraire, qui ne sont pas plus cruels que les autres, contestent cette tradition, cette soi-disant tradition. Et actuellement, ils sont plus de 70% à la contester. Donc voilà, comment se fait-il que nos dirigeants, nos députés ne votent pas une loi pour abolir la corrida ?
Merci de votre témoignage et de cette question. Si on va un peu au-delà de la corrida, il y a eu des tentatives chez nous en 2014, des parlementaires de tous bords d'ailleurs envisageaient de doter les animaux non humains d'un statut juridique particulier. Ça n'a pas abouti. Pourquoi, selon vous, Sandrine Bouglione? C'est le poids
de la tradition, de la tradition, oui, bien sûr.
Mais où il y a d'autres urgences?
Il y a peut-être d'autres urgences, bien sûr, mais c'est vraiment une question qu'il faudrait commencer à voir. Déjà, on était voilà à Bordeaux pour cette anti-corrida. Déjà, interdire le spectacle aux moins de 16 ans, ça serait bien. Parce qu'il y a quand même des enfants qui vont voir une boucherie en direct. Moi, j'ai vu des corridas de mes yeux. On avait été voir ça il y a une quinzaine d'années en arrière et c'est... C'est waouh quoi, c'est choquant, c'est atroce. Alors bien sûr, il y a la tradition taurine, ces taureaux sont absolument magnifiques. Peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas, faire des balades avec des vacanciers, enfin restructurer tout ça. Les arènes sont des lieux extraordinaires, on pourrait y faire des concerts. Il y a plein d'idées à avoir, mais je pense qu'il faudrait déjà avoir le courage d'arrêter de tuer des animaux en public.
Et alors surtout, la corrida a une similitude assez troublante avec le monde du cirque, même si la finalité d'une corrida n'est pas la même que celle du cirque. Nous, on ne martyrise pas nos animaux. Enfin, en tout cas, j'avais pas l'impression de le faire. À la corrida, le but de la présence d'un taureau dans la piste, enfin dans l'arène, c'est la mort et la torture un petit peu avant. Mais il y a quand même des similitudes, parce que si on regarde aujourd'hui les chiffres, comme le cirque, la corrida se meurt. Exactement. Comme le cirque, sans aide, la corrida ne pourrait pas se maintenir. Aujourd'hui, l'opinion publique condamne dans sa très grande majorité ce type d'exhibition, de divertissement, et justement donc le boycott. Et ce sont des activités qui, qu'elles soient condamnées par la loi d'interdiction, ou qu'on les laisse mourir toutes seules, de toute façon, elles vont mourir toutes seules. À cause de ça, ce décalage avec l'opinion publique.
On va en partir dans les Deux-Sèvres, chez Joël, qui est un professionnel du monde animal. Bonsoir Joël.
Bonsoir.
Votre témoignage.
Voilà, donc je suis propriétaire et moniteur dans un centre équestre, et donc la maltraitance animale, utilisation est d'actualité depuis quelques années dans notre secteur. Il y a deux remarques. La première, c'est notamment dans la traction animale, les races de trait qui ne sont quasiment plus employées disparaissent. Par contre, ça c'est une des conséquences. Je pense que ça serait la même pour les chevaux de sport, si on arrivait à des interdictions de certaines activités. Voilà. Et pour moi, ça va par les fédérations, entre autres pour nous, notre fédération équestre, qui effectivement œuvre beaucoup dans ce sens-là, dans la réglementation, pour qu'il n'y ait aucune brutalité, aucune maltraitance quelconque. La fédération internationale vient d'interdire l'utilisation de certains oraînements, de certaines guêtres, etc. Et je pense que il faut faire attention donc à la non-disparition des espèces qui ne seraient plus utilisées. Et puis c'est à tous les gens concernés de prendre conscience que le bien-être fait partie de l'activité qu'on peut avoir avec les animaux et de le réglementer à l'intérieur de fédérations ou de choses comme ça, ou d'organismes pas responsables.
Merci Joël. Muriel Beck, là-dessus, utiliser des animaux pour ne pas qu'ils disparaissent, vous êtes d'accord avec Joël ?
Oui, tout à fait. Tout à fait, notamment sur les races en ce qui concerne les espèces domestiques. Mais je voulais rebondir sur l'intervention de Jocelyne Porcher tout à l'heure, qui parlait du travail des animaux en captivité. N'oubliez pas un point essentiel, on parle des animaux sauvages, ils sont libres, ils sont heureux. Qu'est-ce qu'ils font les animaux sauvages ? Ils sont en activité en permanence. Il faut juste pas l'oublier. Donc un animal qui est en captivité, le meilleur moyen de faire en sorte, et ça moi je l'observe tous les jours, que son mental soit bon et qu'il soit joyeux et dynamique, c'est de le tenir en activité. Donc effectivement, j'œuvre et j'exerce une discipline particulière et extrêmement privilégiée, à savoir que contrairement au cirque notamment, je n'ai pas des animaux qui sont formatés pour réaliser tout le temps la même chose, à des horaires précis. Les productions, les réalisateurs, les mises en scène sont à la disposition du bon vouloir des animaux. C'est-à-dire que je dois réaliser des actions extrêmement complexes et a priori qui peuvent être, je dirais, contre nature, c'est-à-dire qu'on va demander à un cerf d'aller à un point A à un point B dans un axe très précis, mais ce qui est très curieux, c'est qu'on lui demande de réaliser finalement une attitude naturelle. En fait, moi, tous les animaux sauvages qui sont chez moi réalisent pour l'image, pour le grand écran, des comportements naturels. On n'a jamais vu un cerf jouer au football ou des choses de ce genre-là, puisque c'est pas la demande qui est faite. Donc, si vous voulez, les choses sont extrêmement préparées. Effectivement, ce qui est complexe et ce qui peut être apparaître comme contre-nature, c'est que au lieu de le faire dans la forêt tranquille, comme ils ont envie de le faire, on leur demande des déplacements très précis, et ce, sous les feux de la rampe, avec des projecteurs, des caméras, une équipe humaine, tout ce qui est basiquement ne représente pas leur univers. Quand ils sont bien préparés moralement et physiquement, et quand on leur demande, on les invite à participer et qu'ils l'acceptent,
parce que tous ne l'acceptent pas. Et moi, j'ai des animaux qui ne tournent pas chez moi, qui sont là et qui sont avérés ne pas avoir les aptitudes mentales pour le faire. Donc, ils sont là, je les assume pleinement. Ceci dit, en règle générale, ils y prennent beaucoup de plaisir.
Muriel Beck, pour conclure sur cette notion de travail, oui, s'il vous plaît. Les animaux à l'écran, leurs conditions de travail, on a compris que chez vous, ils étaient invités, puis s'ils voulaient pas, ils pouvaient patienter et que vous les gardiez de toute façon. Ça a changé depuis Tarzan, depuis Ben-Hur. Racontez-nous un peu l'évolution de ces conditions de tournage.
Alors, en quelques secondes. Alors, moi, je les ai pas connus,
Non, mais c'est une époque où c'est une époque où on sacrifiait des animaux.
Pardon ?
C'est une époque où on sacrifiait des animaux parfois.
Oui, j'ai ouï dire effectivement que notamment dans les westerns américains, il y avait, ça c'est connu, il y avait effectivement peu de considération. Moi, je me fais un fer de lance de défendre la cause animale et je pars du principe que les animaux sont là pour nous servir et nous permettre de réaliser de jolies choses. Donc le béaba, c'est déjà de les respecter. Chez moi, c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire que dès l'instant où l'animal n'est plus disponible, on arrête, on reprend plus tard. Après, le secret, c'est de bien préparer les choses au départ, de savoir exactement ce que l'on doit faire dans la conduite, de manière à positionner les équipes techniques et de faire en sorte que ça aille relativement vite. Parce que la notion de temps chez un animal n'est pas la même que la nôtre.
Merci Muriel Beck.
Il y a eu pas mal d'abus. J'ai ouï dire, j'ai pas connu.
Mais c'était avant.
Pour ma part, je me refuse à participer à des projets qui impliqueraient de la maltraitance, si ce n'est que c'est un exemple que je donne régulièrement.
Je vais être obligé de vous interrompre, Muriel Beck, parce qu'il y a du monde au standard et je vois l'horloge qui tourne et il y a encore pas mal de sujets très intéressants à soulever. Sabine nous appelle des Landes. Bonsoir Sabine, vous êtes vous-même vétérinaire.
Oui, alors il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début, alors je l'ai loupé, c'était la notion de bien-être animal, quand même. Donc je suis heureuse d'entendre qu'une partie de la famille Bouillonne décide de changer de cap dans les présentations divertissantes au cirque. Qu'un animal soit sauvage ou domestique, il y a quand même des normes de bien-être animal qui existent aujourd'hui, que ce soit des normes pour des poulets de batterie qui sont aussi des animaux et qu'on ne peut plus mettre dans des périmètres trop étroits. Et il y a des normes pour les grands félins de cirque qui, hors des temps qui sont juste avant et juste après les spectacles, doivent normalement être, pour leur bien-être, dans des parcs beaucoup plus grands, etc., ce qui n'arrive jamais. Donc il y a quand même des normes qui ne sont pas respectées, tout ça pour du divertissement. Alors, effectivement, les chiens sont utilisés pour la gendarmerie, pour d'autres tâches qui, pour moi, relèvent de l'utilité publique. Est-ce que c'est légitime de mettre des animaux dans des conditions qui, à mon avis, ne vont pas avec leur bien-être, qui est reconnu, étudié, etc., pour du divertissement, que ce soit des grands félins dans les cirques, des zébus dans les cirques ou ce qu'on veut, ou des orques dans les Marineland, où on sait maintenant que ce n'est pas du tout compatible avec leur bien-être. Donc ça, on n'en a pas parlé. Un chat qui est en appart, il peut très bien vivre en appartement, il n'y a pas de souci, être très heureux. Le jour où il déménage en maison, il n'a pas la même vie. Donc cette notion de bien-être animal, je pense qu'elle est quand même centrale et on ne l'a pas beaucoup évoquée depuis le début.
C'est entendu. Merci Sabine. Jocelyne Porcher, en duplex depuis France Bleu La Rochelle. Est-ce que le bien-être animal est suffisamment pris en compte dans nos lois, nos us et coutumes?
Mais justement, je suis très réservée sur cette notion. Je trouve qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt pour changer la vie des animaux. Voilà. S'il est question de changer la vie des animaux, de s'intéresser à leur rapport, à leur activité, à leur travail, à leur milieu, le bien-être, ça passe à côté de beaucoup de choses. Parce que quand on parle du bien-être animal, déjà, on ne tient pas compte que cet animal dont on parle, il est en relation avec l'humain, que donc ce n'est pas un animal comme ça tout seul et que le bien-être, c'est des choses qui se partagent. Que d'autre part, le bien-être, ce n'est pas 24 heures sur 24. Et sinon, il n'y a qu'à donner du Prozac aux animaux, ils seront contents tout le temps. Et que si, justement, on considère nos relations aux animaux du point de vue du travail, on peut articuler la question du bien-être et de la souffrance, du plaisir, du déplaisir. Parce que nous, quand on est au travail, il y a des moments où on est bien, il y a des moments où on est heureux, il y a des moments où on s'éclate, puis il y a des moments où, non, ça nous éclate pas du tout, on s'est engueulé avec le patron, ici et ça. C'est, le travail, c'est du plaisir et de la souffrance, ou c'est pas, et la vie c'est ça, c'est pas, alors pourquoi d'un seul coup, enfin d'un seul coup, pourquoi cette obsession à vouloir que les animaux soient bien du matin au soir, du soir au matin, si ce bien-être en fait il est détaché justement de l'activité. C'est en faisant des choses qu'on est heureux. Le bien-être, c'est être bien dans la relation avec son milieu, dans la relation avec d'autres individus, avec les humains, avec d'autres animaux, avec des congénères, avec le milieu. Le milieu, c'est très important. Et pourquoi c'est important? Parce que ça donne du sens. C'est-à-dire quand un animal est bien, c'est-à-dire qu'il est bien dans son, par exemple, dans son travail. Voilà, il fait des choses, ça a du sens pour lui. Il met en jeu ses sens à lui, c'est son odorat,
je suis pas d'accord du tout,
etc. Son affectivité, et c'est là qu'il devient qu'il est heureux, voilà, et que c'est pas le bien. Alors, voilà, être obsédé.
C'est une question vraiment pas du tout.
C'est une question. Il faut pas être obsédé par le bien-être.
Jocelyne
voilà.
Porcher, oui. Merci d'avoir présenté vos arguments. Alors, qui ne seront pas ceux, on a compris, d'André-Joseph Bouglione.
Pas
en studio.
Du tout. On sent tout à fait que la personne qui parle n'a aucune expérience avec les animaux. J'ai beaucoup travaillé avec des animaux, pratiquement un petit peu toutes les espèces, notamment des tigres. Je peux vous dire que mes animaux ne souffraient pas de mal-être. Je pense qu'ils étaient pas malheureux chez moi. Néanmoins, la satisfaction que moi j'éprouvais quand je demandais quelque chose à ces animaux et qu'ils l'exécutaient, je ne sais pas encore aujourd'hui si eux-mêmes la ressentaient. C'est complètement aberrant de se mettre à la place de l'animal et de dire « comme moi je suis heureux en faisant tel type d'activité, alors les animaux le sont également dans ce type d'activité parce qu'ils s'accomplissent ». Mais c'est absolument aberrant de raconter ça.
Jocelyne Porcher, l'anthropomorphisme, oui. ça fausse la réalité?
Bah, bien sûr.
Oui, je voulais juste, en plus, je voulais réagir parce que si j'ai une expérience avec les animaux, j'ai été éleveuse moi-même, j'ai travaillé avec des brebis, des chèvres, des cochons dans des systèmes industriels.
Et vous pensez vraiment que vos cochons, vos brebis, vos chèvres, vous avez retiré du plaisir à vous faire plaisir?
Mais pas du tout. Il y a quelque chose de ça, c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais il y a quelque chose de ça effectivement dans le travail, qui est que les animaux aussi travaillent pour nous faire plaisir. Alors ce qui est pas le cas des humains par exemple, ça c'est une différence avec
non,
le travail humain.
Non, je suis pas d'accord du tout.
Nous on travaille pas pour faire plaisir à notre patron, alors qu'il y a des animaux, et parce que la question les affects, c'est très important, on l'a montré dans la relation de travail avec les animaux, l'affection a beaucoup d'importance, on l'a vu effectivement pour le travail des animaux.
Une phrase, Sandrine.
Oui, là je veux rebondir juste sur le milieu du cirque. Vous savez, ça fait partie de notre réflexion aussi de ne plus avoir d'animaux, le bien-être animal. Comment pouvons-nous penser qu'un animal est heureux parqué sur un parking de supermarché? On a de moins en moins de place avec les cirques et nos endroits sont de plus en plus restreints. C'est ce que disait l'auditrice tout à l'heure. Et donc, on ne peut plus garder des animaux déjà dans de bonnes conditions de détention. Comment pouvons-nous espérer qu'ils sont heureux au travail quand ils sont parqués dans des petites cages? C'est un peu compliqué.
Le téléphone sonne. Arnaud Bousquet sur France Inter.
Le dernier auditeur au standard ce soir, c'est Jean-Marie qui patiente depuis les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir à tous. Oui, j'ai entendu beaucoup d'arguments et tous ont une partie de juste. Moi, j'ai eu le privilège de faire beaucoup de métiers dans ma vie et à un moment donné, je conduisais un camion pour la régie cinématographique de la SFP. Donc, j'étais sur les tournages en extérieur. On voyait des gens qui travaillaient avec des animaux, qui amenaient des animaux à travailler, qui les élevaient pour ça. Et ce qui était spectaculaire, c'est la complicité qu'il y avait entre ces animaux. Ça se voyait dans le regard. La bestiole, vous me regardez moi, elle ne me regardait pas de la même façon dont elle regardait son partenaire, non pas son maître, son partenaire. J'insiste sur le fait, parce que, par exemple, un petit exemple, une petite anecdote, il y avait un cheval qui devait donc partir au galop dans une scène bien précise, et ils avaient le réalisateur et l'équipe animalière avaient décidé de changer le mot action par un autre mot. Parce que la bestiole et le cheval étaient tellement habitués à tourner, à prendre du plaisir à tourner, que dès qu'on disait action, il démarrait comme un V2. Et c'était pas toujours le bon moment, quoi. Voilà. Donc, par témoignage, parce que je l'ai vu, par exemple, il y avait une femme qui travaillait avec des hiboux, des oiseaux nocturnes. Moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment un animal qui vit la nuit peut être heureux le jour? Elle m'a dit, c'est une question de complicité, et c'était la vérité, ça se voyait dans le rapport entre l'animal et son partenaire. Et aujourd'hui, je fais des photos de presse. Je travaille sur les humains, entre guillemets, et je pense que les humains sont bien plus malheureux que les animaux qui travaillent pour le cinéma ou pour les cirques. Évidemment, il y a des gens qui maltraitent leurs animaux, ça est vrai, ça existe. Mais il y a aussi des gens qui maltraitent leurs animaux chez eux. Quand je vois, moi, une famille qui a un chien husky dans un appartement de 4 mètres carrés et le chien ne peut pas sortir parce qu'il y a des enfants sur la pelouse et donc, pour des raisons de sécurité, on ne fait pas sortir le chien, eh ben là, je pense qu'il est certainement plus malheureux que les animaux qui travaillent pour le spectacle, pour la télé, pour le cinéma, qui sont des animaux élevés, éduqués et en complicité avec leurs partenaires.
Merci Jean-Marie, un témoignage qui fera plaisir à Muriel Beck. Muriel Beck, en une minute, vraiment. J'ai vu une photo, vous avez face à vous une meute de loups, bah, ils sont sages comme des chiots. Comment vous expliquez, comment vous définissez ce fluide qui passe à ce moment-là? Alors, Muriel Beck est repartie certainement s'occuper des oies avec lesquelles elle tourne depuis cet après-midi. Non, mais c'est impressionnant. Vous avez quelques souvenirs aussi de ce moment où il se passe quelque chose de magique.
Mais c'est merveilleux.
Et c'est d'autant plus dur pour vous, j'imagine, de passer à autre chose.
Eh bien, pas du tout, sincèrement, parce que moi, j'ai vécu, vous savez, j'ai appris à marcher, à gripper sur deux bébés tigres. Je pense que c'est une continuité de mon métier. Je ne veux plus présenter d'animaux sauvages, voilà, comme je disais, parqués dans des supermarchés, dans les petites places où on ne peut pas mettre de cage. On ne peut plus avoir d'animaux dans de bonnes conditions de détention sur le voyage, en réalité. Et je suis dompteuse, je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière de la relation que j'avais avec mes animaux. J'ai eu un métier absolument extraordinaire et je pense que voilà, aller dans la protection animale maintenant, c'est tout simplement une continuité et je suis en adéquation avec ce que je ressens. Je ne veux plus travailler, je ne veux plus avoir des animaux qui travaillent pour moi, je veux travailler pour les animaux.
Merci à tous pour vos appels et vos messages. C'est la fin de ce téléphone sonne et merci à nos invités. Jocelyne Porcher, sociologue et chargée de recherche à l'INRA. Votre ouvrage « Travail animal, un autre regard sur nos relations aux animaux » paru l'an dernier chez Educagri. Vous étiez en direct de La Rochelle en duplex depuis les locaux de France Bleu La Rochelle. On remercie l'équipe. Muriel Beck, on vous rend donc à vos oies que vous entraînez pour le tournage du nouveau film de Nicolas Vanier. Et puis on devrait voir dans les prochains mois vos animaux avec Fabrice Lucchini, avec Daniel Auteuil pour le film Rémi sans famille. Et puis Sandrine et André-Joseph Bouglione, le livre Contre l'exploitation animale qui est sorti en avril aux éditions Tchou, et votre association Objectif 100% Humain et une tournée internationale.
C'est qui bien débute ça en avril 2019, tout à fait. Oui.
Donc, avec un spectacle 100% humain.
100% totalement. Humain. Un éco-cirque, très
alors, non seulement ça sera sans animaux, les costumes seront faits sans matière issue d'exploitation animale, et l'ensemble du matériel sera écologique.
Et il n'y aura plus que ça dans 50 ans,
c'est ce que
sur la planète,
j'en pense.
Mais nous,
pense.
Ce que nous souhaitons, c'est que notre spectacle se réforme, tout simplement.
Merci à vous. Lundi, c'est Frédéric Mettezo que vous retrouverez ce micro. Le téléphone sonne posera la question de l'état et de l'entretien des ouvrages d'art en France, une semaine après la catastrophe de Gênes. On se quitte en saluant tous ceux qui m'accompagnent ce soir et depuis 3 semaines sur cette émission. Clément Nouillet à la réalisation, Caroline Baudry, Justine Bilray et Pierre Gaufre à la préparation. Ce soir, il y avait à la technique Victoria Asper et Arnaud Caillé. Et des merci très sincères, très chaleureux à toute la bande. Je vous souhaite une belle soirée sur France Inter. Il est 20h.